Utopod 018, 31 mars 2008, Là d'où je viens, d'Isabelle Piette, en partenariat avec la revue Solaris et les éditions À lire. Bonjour et bienvenue à tous. Le 17 mars dernier, Utopod fêtait son premier anniversaire. Eh oui, une année déjà. Le temps passe vite. Si l'occasion vous inspire, vous pouvez nous faire un petit don via le site ou parler de ce podcast autour de vous et encourager les gens intéressés à s'y abonner gratuitement. Utopod a récemment décroché son premier contrat de parrainage et devrait bientôt recevoir 500 euros. Ce montant nous permettra de rémunérer quelques-uns de nos prochains auteurs et lecteurs. Plus nous aurons d'abonnés, plus nous aurons de chances de décrocher ce genre de financement. Alors encore une fois, n'hésitez pas à parler d'Utopod, le bouche à oreille fait des merveilles. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'accueillir une jeune auteure québécoise, Isabelle Piette, qui nous fait l'honneur de sa première nouvelle publiée, Là d'où je viens. Un récit de fantastique initialement paru dans le numéro 165 de la revue québécoise Solaris. Isabelle Piette est née en 1971 au Québec, où elle réside toujours. Ingénieure en génie électrique, elle travaille dans le domaine des télécommunications. Elle écrit exclusivement des nouvelles, car elle dit, je cite, manquer un peu de temps pour un roman. Et cela se comprend quand on connaît ses nombreuses activités. Mère de deux enfants, elle pratique l'escalade, le canot de rapide, le camping et le marathon, en plus de sa passion pour la littérature. Charlotte Raimondin, notre lectrice du jour, est née en 1979 et vit actuellement à Lausanne, en Suisse. Elle a fait des études professionnelles de danse classique, puis de théâtre. Fondatrice de la compagnie Gbarré, elle pratique, en dehors de la comédie, l'assistanat à la mise en scène, la lecture à voix haute, l'enseignement du théâtre, le chant moderne et l'accordéon. Et maintenant, ajustez votre lampe frontale, contrôlez-moi ce tremblement et place à la littérature.
Là d'où je viens, d'Isabelle Piette. Un trou. Voilà d'où je viens. Un petit village perdu au nord de nulle part, où l'occupation principale consiste à épier les voisins ou à inventer des histoires sur eux quand on n'a pas réussi à les prendre la main dans le sac. Un endroit où les statistiques de hockey sont connues sur le bout des doigts, mais où Ravel est confondu avec une friandise et où Hugo n'est qu'un prénom commun. Le village, d'ailleurs, existe à cause d'un grand trou. Une mine. Du tantale. Un minerai assez rare, exploité à peine dans deux ou trois endroits dans le monde. Il sert à modifier les propriétés de l'acier, mais ça, la plupart de ceux qui travaillent à la mine s'en balancent. Ils sortent la roche pour l'exploitant de la concession et reçoivent leur paye, qu'ils s'empressent de dépenser à la taverne du coin. Merci, bonsoir. L'alcool pour tromper le désœuvrement, l'enfermement sur soi-même, le rejet de tout ce qui est différent, j'ai tout fait là-bas. Je suis partie tôt pour la grande ville où l'anonymat a été comme une bouffée d'air frais dans une pièce fermée. Je me suis plongée dans la culture, l'opéra, le théâtre, la musique, comme on plonge dans une piscine fraîche un jour de canicule. Mais j'ai quand même eu besoin de revenir à la mort de mon fiancé pour tenter de retrouver l'équilibre en terre inconnue. J'ai pris un congé sans solde de la firme de comptable qui m'emploie pour venir habiter quelque temps chez ma mère, histoire de ne pas être seule avec mes souvenirs d'Andrew. Mon cher et passionné Andrew. Il dirigeait une école de voile et venait à la firme pour sa comptabilité et ses impôts. Il m'a dit m'avoir remarqué tout de suite grâce à, ou malgré, devrais-je dire, mes yeux violets, que je tentais tant bien que mal de dissimuler derrière mes lunettes. Ces yeux trop bizarres qui me valent tour à tour attirance et rejet, yeux de sorcière qui m'interdisent la tranquillité de l'anonymat. Moi aussi, j'avais remarqué son rire communicatif, ses yeux espiègles, brillants du bleu de l'océan qu'il adorait. Nous n'aurions pas pu être plus différents physiquement. Lui, grand, cheveux blonds toujours décoiffés, et teint basané de celui qui passe son temps au soleil. Moi, menu, cheveux noirs et peau très pâle, affichant le style classique d'une professionnelle œuvrant pour une firme reconnue. Nous nous complétions bien. Je lui apportais la stabilité. Il me faisait découvrir la liberté. Je me souviens de ces longs après-midi passés sur le bateau, les cheveux au vent, sans contrainte, souvent suivis par des nuits à faire l'amour à la belle étoile, drapé seulement de la voile. Mon cher Andrew, que les gens ici disaient trouver bien sympathique, tout en médisant dans son dos. En anglo, quelle horreur! Moi, je m'en moquais complètement. J'étais heureuse. J'étais libre. Et puis, il a fallu qu'un chauffeur de camion tombe endormi au volant après de longues heures de conduite pour aller emboutir sa moto. Contre un tel poids lourd, il n'avait aucune chance. Et moi, je me retrouve ici, à me promener dans les rues de mon enfance, en tentant de découvrir un film permettant de me raccrocher, de trouver qui je suis. Mes pas me portent jusqu'à la rue de l'église et me font revivre un épisode de mes 9 ans. Je peux presque revoir les bicyclettes colorées, appuyées les unes sur les autres, leurs propriétaires dessinant à la craie sur le bord de la rue. Je pédalais gaiement pour aller les rejoindre en faisant un signe de la main à l'un d'entre eux qui venait de m'apercevoir au loin. Je le regarde de nouveau aviser ses camarades de jeu qui s'élancent tous sur leur monture pour s'éloigner à toute allure. Je revis la panique qui poussait mes petites jambes plus fort sur les pédales pour tenter de les rejoindre. Je sens encore le sable sous ma propre roue entraînant ma bicyclette dans une glissade. Je les regarde encore s'éloigner, ne se retournant même pas pour voir si je vais bien, fuyant comme s'ils avaient le feu à leurs trousses. Je reviens à la maison en larmes, comme cette fois-là, où l'abandon faisait plus mal que mes jambes écorchées. Serait-ce mon destin de toujours être seul, de ne me sentir chez moi nulle part, d'être toujours abandonné par ceux que j'aime? Je suis au plus bas, prostré devant les feuilletons télé d'après-midi, quand oncle Max vient sonner à la porte. Je suis contente de le voir. Toujours prévenant, toujours gentil, il est l'archétype même du bon gars qui pense plus aux autres qu'à lui-même. J'aimais beaucoup sa compagnie lorsque j'étais petite, même si je le voyais rarement. Ma mère l'évitait un peu, peut-être parce qu'il ressemble trop à mon père, qui est mort lorsque j'étais bébé, peut-être surtout parce qu'elle ne lui pardonne toujours pas d'avoir survécu à l'accident qui a tué son frère à la mine. Moi qui n'ai jamais connu mon père, j'aime voir la similitude entre ses cheveux noirs et les miens. Ma mère a une chevelure rousse flamboyante. Et je comprends aussi de qui j'ai hérité la couleur si particulière de mes yeux. Ceux de mon oncle Max ont une teinte un peu plus claire que les miens, plus mauve que violette. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la lumière qui semble s'en dégager. En les regardant, j'ai l'impression de voir, à travers une fenêtre, un feu ardent, tapi dans son antre, qui attend son heure pour consumer tout sur son passage. Il n'est pas le seul au village à posséder des yeux semblables, sans le mauve toutefois, et ce sont tous des mineurs. Comme si, pour conjurer les ténèbres autour d'eux, ils avaient besoin d'une lumière intérieure. D'ailleurs, en le voyant comme ça, j'ai l'idée de lui demander de me faire une visite de la mine. Ma mère, par superstition, m'a toujours empêchée d'y aller. Il résiste un peu, par respect pour ma mère peut-être. J'insiste. Je fais mes propres choix à présent. J'ai besoin d'un retour aux sources et, tant qu'à faire, je dois aller où tout a commencé. Il reste silencieux, le regard vers le sol. Mes yeux s'embuent de larmes. Je le supplie, avec tout ce que je suis capable de mettre d'émotion dans ma voix, de me montrer un lien avec mon passé pour que je puisse envisager un futur, parce que dans l'état actuel des choses, je n'en vois aucun. Il ferme les yeux un instant, le visage crispé, puis fait demi-tour et se dirige brusquement vers la porte. Juste avant de sortir, il se retourne. « Il viendra me chercher demain à 8 heures, » dit-il d'une voix rauque. Mon cœur bondit. J'ôte mes lunettes pour essuyer les larmes qui coulent librement sur ma joue. un des grands tabous de mon passé sera transgressé demain. Cette nuit ne sera pas calme. C'est la gueule béante de la mine qui a, la première, suscité quelques frissons dans mon dos. Les installations terrestres sont, somme toute, assez ordinaires. Usines de transformation, bassins de décantation, convoyeurs de transport, rien que d'assez courant dans toutes les industries. Par contre, l'énorme trou, entièrement noir vu de l'extérieur, qui descendait dans les entrailles de la terre à un angle de 40 degrés, avalant tracteurs et machinerie comme de vulgaires fourmis, ça, c'est impressionnant. Nous ne descendons pas par là. Nous prenons l'ascenseur de service pour gagner du temps, mais tout de même, la descente dure très longtemps, même si la cabine plonge très vite, jusqu'à 1000 mètres de profondeur, à l'endroit où le minerai est exploité. Je ne suis pas particulièrement claustrophobe, mais je n'aime pas la sensation de me sentir prisonnière ou enfermée. J'avais un peu peur de ma réaction dans les tunnels, mais je suis surprise de trouver l'endroit relativement bien éclairé et ventilé. Les galeries principales sont hautes et assez larges, ce qui atténue un peu l'impression d'être si loin de la surface. C'est froid et humide, par contre. Mon haleine se dissipe en volutes blanches et éphémères. On peut sentir, en bien des endroits, l'eau suinter sur les parois du tunnel, quand ça ne dégoûte pas carrément. Je suis contente d'avoir enfilé le bleu de travail, la fameuse « chienne » des mineurs. Le casque à lampe frontale complète l'uniforme, même si la lampe sert surtout dans les galeries secondaires et les tunnels d'exploration. Je regrette un peu de ne pas avoir mis mes lentilles de contact. Oncle Max, en tant que contremaître, me fait visiter les lieux. Nous nous baladons en tracteur électrique, du genre voiturette de golf, ce qui nous permet de couvrir plus de terrain. Oncle Max m'explique que c'est dans les tunnels verticaux que le minerai est d'abord arraché à la paroi, par explosion la plupart du temps, les pics et les pioches ne servant plus qu'à l'exploration en tant que telle. Le matériau descend au niveau du concassage par gravité. Il me montre un de ces grands trous à l'endroit de l'explosion, puis m'amène voir le concassage lui-même un peu plus bas. Je dis « un peu », mais c'est quelque chose que de descendre une telle pente en se demandant si le tracteur sera capable de freiner au niveau désiré. Mon oncle me fait voir l'appareil servant à affiner la taille des roches qui vont finalement remonter vers la surface. C'est un monstre qui avale de gros morceaux de roc et recrache des petits cailloux en produisant un vacarme infernal. Je demande à mon oncle ce qui se passe si l'appareil n'arrive pas à casser un morceau un peu trop gros. Ma question tombe à point. Le technicien de service vient lui dire qu'il y a un blocage dans l'appareil. Nous sortons de la salle de concassage et une sirène retentit dans le tunnel pour avertir qu'une charge explosive va entrer en action dans les minutes suivantes. Je ressens le choc jusque dans mon plexus solaire. Le tunnel entier semble gémir sous la force du souffle, comme si le roc lui-même criait sa douleur d'une voix inorganique. Une seconde sirène retentit pour annoncer le retour aux opérations normales. Mon cœur bat plus vite. Oncle Max sourit. Pour lui, c'est de la routine. Il me montre ensuite, plus loin vers le fond du tunnel, une petite croix d'améthyste fixée à ce qui semble être un éboulement de roc. L'améthyste provient vraisemblablement d'une géode. Ces petits bijoux se forment quand une poche de gaz est emprisonnée dans la roche. La paroi intérieure de la cavité ainsi formée est cristallisée par l'action de la pression et de la chaleur. Les géodes sont très communes dans les mines comme celle-ci. Mon oncle ne dit rien, mais je comprends vite que je suis devant l'éboulement qui a coûté la vie à 15 mineurs une trentaine d'années plus tôt. Je suis devant la vraie tombe de mon père. Celle du cimetière n'étant qu'un symbole vide. Pour la première fois, je peux construire une certaine réalité autour de celui qui m'a donné la vie. Ça me fait du bien de le connaître un peu à travers son travail quotidien et, curieusement, ça me permet de lui dire au revoir, enfin. Je reste silencieuse quelques minutes pour ensuite me retourner vers mon oncle et lui dire un simple « Merci ». Il me regarde en silence. Il comprend. Oncle Max prend ensuite un air plus grave en m'annonçant qu'on va maintenant avoir besoin des lampes. Je reprends donc ma place à côté de lui sur le tracteur et j'allume ma lampe frontale. Elle est reliée à une grosse batterie attachée à ma ceinture. Je me doute bien que ces piles sont correctement entretenues, vu leur importance, mais j'ai quand même un pincement au cœur quand, descendu quelques niveaux plus bas, nous dépassons les dernières lumières accrochées au plafond. Je ne sais pas ce que mon oncle me réserve, mais je commence à frissonner sous ma combinaison. La visite a été riche en émotions et je suis plutôt d'humeur à remonter qu'à m'enfoncer encore plus profondément sous terre. Nous nous retrouvons dans des tunnels d'exploration. Les plafonds sont plus bas, à peine sécurisés par des poutres en bois et des treillis métalliques. L'eau suinte de partout. L'humidité semble traverser mes vêtements et ma peau pour me glacer jusqu'aux os. Mon oncle arrête le tracteur. Il me demande si je veux faire l'expérience de ce que peuvent être de vraies ténèbres. J'acquiesce d'un hochement de tête incertain, sans trop savoir où il veut en venir. Il éteint sa lampe et me demande de faire de même. J'obéis, sachant qu'aucune autre source de lumière ne peut exister à une telle profondeur. Et je découvre vraiment ce que noir veut dire. Une obscurité si dense, si épaisse, que même ma main à quelques centimètres de mes yeux est invisible. Un néant complet, troublé seulement par le bruit étouffé et lointain de quelques gouttes d'eau et celui, plus ressenti qu'entendu, de mes vêtements que froissent mes timides mouvements. Mon souffle devient laborieux. Je me sens rapetissé, comprimé dans cette noirceur opaque et lourde. J'en ai vite assez. Je vais rallumer ma lampe quand une légère lueur violacée capte mon regard. Ça vient d'à côté de moi, du côté du conducteur. Impossible. Je porte ma main à ma lampe, mais une autre main arrête mon geste. Celle d'oncle Max, dont les yeux mauves luisent dans l'obscurité. Je suis totalement pétrifiée. Ma tête refuse ce que mes yeux me laissent voir. Et puis d'autres mineurs arrivent. Une vingtaine peut-être. Leurs yeux émettent tous cette étrange lumière. Des hallucinations, certainement. Mes yeux privés de stimuli me jouent des tours. Je vais sûrement chasser ce cauchemar en rallumant ma lampe. Mais mon oncle me prend par la main avant que je ne puisse atteindre le bouton et me force à le suivre. À une contre vingt et totalement démunie dans ce dédale de corridor inconnu, je ne peux qu'obtempérer. Nous marchons quelques minutes dans un silence complet, en nous enfonçant toujours plus profondément dans les entrailles de la mine. Mes jambes me portent à peine. J'aperçois bientôt une autre lueur mauve au détour d'un tunnel plus petit. Nous continuons à avancer vers cette lumière qui s'avère provenir d'une immense géode d'améthyste, grande au point que nous pouvons tous y tenir debout à l'aise. Nous faisons quelques pas à l'intérieur, sur une surface très inégale, tout en pointe et en pic, baignant tous maintenant dans cette intense lumière mauve. J'imagine quelques phénomènes de bioluminescence. J'ignorais que l'améthyste avait cette propriété. D'ailleurs, j'ai l'impression que mon cerveau ne fonctionne plus très bien. J'alterne entre hébétude servile et panique totale. Les autres n'ouvrent pas la bouche. Je les supplie de me dire ce qui se passe, mais seul leur silence obstiné et leur regard impossible me répondent. Ils bougent de concert, comme mus par une seule volonté. Ils s'installent en cercle autour de moi. Oncle Max fait un signe de la tête et deux de ses acolytes appuient sur mes épaules pour me forcer à m'agenouiller. Je veux me débattre, mais ils sont beaucoup trop forts pour moi. Je crie à mon oncle d'arrêter, de m'expliquer ce qui se passe, mais en vain. Un des mineurs retire mes lunettes pour ensuite me prendre les cheveux et tirer ma tête vers l'arrière. Je ne peux maintenant que fixer les cristaux du plafond de cette grotte de cauchemar. Je ne vois plus très bien, mais je crois distinguer un liquide épais qui commence à suinter des aspérités cristallines de la géode. J'ignore ce que c'est, mais voyant que cette chose va me tomber sur le visage, je me débats de plus belle, ignorant les écorchures que je m'inflige aux genoux. Impossible de me dégager de la poigne de fer des mineurs. Une substance glacée et visqueuse tombe sur ma joue malgré tous mes efforts pour l'éviter. Je la sens remonter doucement vers mes yeux. Je me mets à hurler, sachant bien qu'aucun bruit ne peut s'échapper d'une telle prison de roc. La substance humide remonte encore. Je secoue la tête frénétiquement. Je tente de me frapper la tête sur le sol, mais les mineurs me tiennent fermement. Le fluide immonde est tout près de mes yeux. Je hurle toujours. Soudain, un froid glacé me saisit tout entière et je m'affale sur le sol, le souffle coupé. Je sens une présence dans ma tête, une conscience forte et exigeante. J'essaie de lui résister, de la chasser par la seule force de ma volonté, mais elle est plus forte que moi. Je perçois également une multitude d'autres présences, de petites lumières plus ténues, celle-là est moins envahissante, mais cette cacophonie de voix et de sensations disparates m'étourdit. Je m'égare, je tombe dans un grand tourbillon, je sombre. Aujourd'hui, je travaille à la mine, en tant que comptable. Je me suis établie au village pour être plus près d'elle, cette conscience séculaire qui m'habite maintenant tout entière. Je me souviens de m'être réveillée à la maison après l'intégration, encore sous le choc, tentant désespérément de me débarrasser d'elle par la seule force de ma volonté, mais j'ai vite compris que c'était futile. Autant vouloir s'enlever le foie à main nue. L'être qui a émergé des profondeurs de la terre et qui vivait au rythme des cycles géologiques a découvert, par accident, la conscience humaine à travers les mineurs qui l'ont mise au jour. La géode nous lie tous, car je peux, quand elles sont assez proches, percevoir dans ma tête les autres personnes qu'elle a intégrées. Elle nous lie également à elle, car nous avons besoin de son essence pour conserver ses forces nouvellement acquises. Il y a des avantages. Maintenant, je ne suis plus jamais malade. Je suis plus forte physiquement et je n'ai besoin que de 3 heures de sommeil par jour, prises généralement à l'aube. Non seulement je n'ai plus besoin de lunettes, mais je vois dans le noir, grâce à mes yeux luminescents. Je guéris presque instantanément de mes blessures. Max hésitait à me dévoiler ce secret, mais il a voulu m'offrir, en le partageant, une communauté. Un lien, une appartenance que je n'avais jamais pu connaître avant. Ce que mon oncle n'avait pas prévu, par contre, c'est l'immense solitude qui désormais nous accable tous. La géode a découvert, à travers moi, un univers de possibilités. Mes souvenirs de la ville, de mes voyages, mes espoirs, mes aspirations, mes rêves, Andrew... Elle peut lire en moi mieux que dans un livre ouvert. Elle ne veut plus, maintenant, se contenter de partager la vie de quelques-uns des mineurs qui travaillent près d'elle. Elle voudrait plus, beaucoup plus. Elle voudrait voir la mer, voler dans le ciel, découvrir d'autres horizons. Elle voudrait connaître ses semblables qui doivent bien exister quelque part. Le problème est qu'on ne peut pas vraiment s'éloigner du village. Son essence ne vit pas longtemps à l'air libre et sa conscience s'étiole, se perd avec la distance. Le simple voyage en ville pour aller chercher mes affaires a failli me coûter la vie. Fini l'avion, le bateau et même l'autobus si la distance est trop longue. Peut-être que d'autres communautés comme la nôtre sont disséminées un peu partout dans le monde, comme au Brésil ou en Afrique, là où des gisements de tantale sont exploités, mais elles sont irrémédiablement et désespérément hors d'atteinte. Là d'où je viens, les gens sont simples, sans prétention, et ils ont des valeurs qui s'enracinent profondément dans la terre. Très profondément.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous tenons à remercier chaleureusement nos collègues québécois Jean Petitgroux et Joël Champetier, des éditions À lire et de la revue Solaris, pour leur énorme soutien à Utopod. Comme nous, ils ne désirent qu'une chose, que des ponts soient jetés par-dessus l'Atlantique et que, de part et d'autre, on puisse découvrir la qualité du travail littéraire effectué chez le confrère francophone. En Europe, par exemple, la science-fiction, l'horreur, la fantasy et le fantastique québécois sont très mal connus. Mais la situation change. Les éditions à lire, notamment, sont beaucoup mieux distribuées en France, en Suisse et en Belgique. Et il ne tient qu'à nous de faire un petit effort pour découvrir les auteurs de talent qu'on connaissait mal il y a quelques années encore. Si vous voulez vous tenir au courant de l'actualité de l'imaginaire au Québec, vous pouvez également vous abonner à Solaris, la plus ancienne revue de SF et de fantastique encore active. Rendez-vous sur son site www.revue-solaris.com. Nous vous recommandons entre autres le numéro spécial d'été, le 167, qui commémorera le 400e anniversaire de la ville de Québec, et donc de l'implantation permanente de la francophonie en Amérique. De manière plus générale, si vous êtes passionné de littérature de l'imaginaire et si vous voulez faire vivre le genre, n'oubliez pas les petites structures, les revues francophones à faible tirage qui, contre vents et marées, essaient de faire perdurer nos genres de prédilection. Je pense à Bifrost, Galaxy, Fiction, Lunatic, Chimaera, Fairies et bien entendu Solaris. La nouvelle est un format royal pour la science-fiction, ne l'oublions pas. Or, il devient de plus en plus difficile pour les jeunes et les moins jeunes auteurs de publier leur travail dans ce registre. Il n'y en a que pour le roman. Alors si vous aimez les nouvelles, ne vous privez pas, lisez-en. Il y a des rédacteurs en chef qui travaillent d'arrache-pied pour vous fournir des textes de qualité. Et justement, tiens, pour rester dans le sujet, le prochain numéro de la revue française trimestrielle Lunatique sortira en avril. Il s'agira d'un numéro double de 340 pages contenant 12 nouvelles, dont la plupart inédites, et un dossier consacré à Jean-Pierre Bouixou, écrivain, journaliste, critique et réalisateur français. Quant au numéro suivant de la revue, un spécial Jean-Pierre Andrevon, il paraîtra exceptionnellement un mois plus tard, en mai. Plus d'infos sur www.eons.fr. Enfin, sachez que le numéro 49 de la revue italienne, Futuro Europa, pour ceux qui lisent l'italien, est consacré à un auteur de science-fiction francophone, Jean-Pierre Fontana. Dans un autre registre, annonçons que le prix du lundi 2007, nouveau grand prix de la science-fiction française, a récemment été décerné. Dans la catégorie roman, à Élise Fontenaille pour Unica, paru aux éditions Stock en janvier 2007 et qui sera réédité en mai 2008 dans la collection SF du livre de poche. Dans la catégorie nouvelle, à l'ensemble des textes de Michel Demuth, contenus dans le numéro spécial de la revue Lunatique, paru en juillet 2007. Ben voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à vous souhaiter un début de printemps aussi doux que riche en lecture. Bye bye !